Si nous n'avons pas ces dimensions, frères et sœurs, de la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, c'est que, sans reproche, évidemment, mais il faut se poser les vraies questions, nous avons forcément manqué quelque chose. Il y a vraiment, par la grâce de Dieu, dans sa présence, il y a des ressources et des richesses qui sont réellement insoupçonnables, insoupçonnées et incomparables. Et on a besoin de toujours mieux le connaître, non pas d'une connaissance intellectuelle, rationnelle ou cartésienne, mais de le connaître dans cette dimension de cœur, dans ce partage de vie, dans ce face-à-face, dans ce tête-à-tête, dans cette intimité de vie avec lui. Le thème, c'est toujours « Soyez remplis de l'Esprit », mais j'ai vraiment sur le cœur de vous parler de cette facette du ministère du Saint-Esprit, une facette du ministère du Saint-Esprit en nous. Trop souvent, frères et sœurs, nous vivons le Saint-Esprit d'une façon extérieure, mais nous avons à le vivre d'une façon intérieure. Il a des miracles à faire, pas seulement à l'extérieur, il a des miracles à faire à l'intérieur. Et le miracle qu'il fait à l'intérieur s'appelle la transformation. Ça s'appelle la métamorphose. Ça s'appelle être de plus en plus à la ressemblance de Jésus. C'est le pourquoi de notre nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau parce que nous avons été, selon ce que Romains 8 déclare, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est son plan. J'ai à le prendre à cœur. Dieu n'a que faire des religions, je le dis, Dieu n'a que faire des liturgies, parce que Dieu ne veut pas une vie de tradition et d'habitude. Dieu veut une vie de communion et de communication. Dieu ne veut pas une vie d'apparence. Dieu veut une vie de ressemblance, et c'est ce qu'il cherche, c'est ce que l'Esprit cherche à provoquer en moi lorsque, malgré mes contestations, mes résistances, mes difficultés, ma raison, mes excuses, le Saint-Esprit est là et il cherche à m'amener à la ressemblance de Jésus. C'est son plan, c'est sa volonté. Dieu veut le meilleur pour vous. Et le meilleur pour vous, c'est pas d'être comme vous êtes. Le meilleur pour vous, c'est d'être comme Jésus. Le meilleur pour moi, c'est d'être comme Jésus. Le meilleur pour vous, c'est pas d'être comme le pasteur. Le meilleur pour vous, c'est d'être comme Jésus. Ça, c'est une qualité de vie. Une vie dans laquelle son caractère, son cœur, sa nature va pouvoir pleinement se manifester. Au point qu'on me dise, avec le temps, « Waouh, qu'est-ce que tu as changé ?» Parle-moi de cette bonne odeur de Jésus qui se dégage de toi. C'est quoi ta recette? C'est quoi ton secret? D'où vient cette vie qui sort de toi, qui se manifeste en toi, au travers de toi? Nous avons besoin de prendre conscience, frères et sœurs, que la transformation n'est pas une option. Nous avons besoin, non pas de faire des efforts les uns avec les autres, nous n'avons pas besoin de mettre de l'eau dans notre vin. Ça, c'est la religion et la psychologie qui s'en chargent. Jésus a changé l'eau, il n'a pas mis de l'eau dans le vin. Il a changé, il a transformé, il a métamorphosé. Et nous sommes appelés à cette vie de transformation. Nous devons comprendre aussi, frères et sœurs, je résume rapidement pour ceux qui nous rejoignent, que nous ne pouvons pas ni nous changer nous-mêmes, ni changer les autres. Ça ne sert à rien du tout. C'est peine perdue. Je ne peux pas me changer moi-même. La vie chrétienne, on l'a vu, c'est un pur miracle, inaccessible à ma bonne volonté humaine. Et le Seigneur dit, dans le contexte de la sanctification, Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, je ne peux pas me changer moi-même, mais je ne vais pas en rester là, parce que je sais que la volonté de Dieu, c'est de me transformer. Et c'est ce qu'on avait vu ensemble dans 2 Corinthiens 3:18. On va lire d'autres textes ce matin. Quand Paul dit « Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur, nous le contemplons, nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit, de gloire en gloire, de progrès en progrès. » Le secret de cette métamorphose intérieure, le secret de cette transformation, c'est aussi, selon ce que Paul dit, 2 Corinthiens 13:13, la communion du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, et la communion du Saint-Esprit. Comment est-ce que l'Esprit concrètement va s'y prendre pour nous transformer? C'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Et nous avons parlé, souvenez-vous, d'un aspect spécifique de la prière. On ne parle pas, évidemment, là, de la prière information, on ne parle pas de la prière réclamation, on ne parle même pas de la prière action de grâce. C'est très bien de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, la reconnaissance, c'est biblique, tout ça, c'est biblique. Mais nous ne parlons pas de cet aspect-là, nous parlons de cet aspect particulier de la vie de prière dans laquelle Paul dit « nous le contemplons ». Nous sommes, selon ce que Moïse a expérimenté dans ce tête-à-tête, dans ce face-à-face avec Dieu sur la montagne, selon ce que Jésus a expérimenté aux yeux de Pierre, Jacques et Jean lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration, pendant qu'il priait, il fut transfiguré. Littéralement, il fut métamorphosé. Le but premier de la prière, frères et sœurs, c'est pas de changer les autres, c'est pas de changer les temps. Ce n'est pas de changer les circonstances, même si Dieu peut le faire. Le but premier de la prière, c'est de changer celui qui prie. Et si lorsque je ressors d'un temps de culte, de réunion de prière, d'étude, que je sois seul chez moi, ici, ensemble, peu importe, si lorsque je ressors de ces moments-là où je suis censé avoir vu la présence de Dieu, si je ne suis pas moi-même transformé, pardon, j'ai manqué quelque chose. Et je dois reconsidérer ma définition profonde de la prière. Nous le contemplons. Nous avons malheureusement une conception très réductrice de la vie de prière. Mais ici, c'est vraiment un aspect primordial de la vie de prière. Il n'y a rien de mystique. C'est simplement que dans ce tête-à-tête, dans ce face-à-face, dans cette intimité, les yeux dans les yeux avec Jésus, amoureux, passionné de lui, goûtant à la présence de Dieu, Paul me dit, de la même façon que Moïse a rayonné de la gloire de Dieu, de la même façon que Jésus a rayonné de la gloire du Père sur cette montagne, toi aussi, si tu sais contempler, si tu sais entrer dans la dimension d'intimité de la présence de Dieu, tu vas aussi rayonner de la gloire de Dieu. Pas physiquement, mais tu vas pouvoir devenir l'expression du caractère et du cœur de Dieu. Tu vas pouvoir lui ressembler de plus en plus, tu vas le refléter. C'est une contemplation. Souvenez-vous du psaume 45. Psaume 45, cantique, littéralement, cantique, contemplation. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Je ne suis pas en train de te demander un nouveau boulot, de changer. Non, je ne suis pas là pour tout ça, Seigneur. Je suis là pour toi. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Mon cœur bouillonne de paroles pleines de charme. Je dis mon œuvre est pour le roi. Il y a une dimension de prière, il y a une dimension d'adoration, il y a une dimension de contemplation. Je me suis arrêté tellement de fois sur le visage merveilleux de mes enfants. J'ai passé des heures à les regarder. Parfois, vous êtes là comme subjugué, admiratif, devant un tableau qui évoque quelque chose en vous. Puis vous êtes là, vous le regardez, vous vous arrêtez. Et à ce moment-là, il n'y a plus que ce tableau et vous. Il y a quelque chose de beau, de magnifique qui s'en dégage, vous êtes subjugué. On va en reparler ce matin. La Bible est un tableau, pardonnez-moi, extraordinaire, qui me dépeint le visage sublime et extraordinaire de Jésus-Christ. Et j'ai besoin d'entrer dans cette dimension. Je suis là pour avoir un cœur à cœur, un face à face avec mon Dieu. Et le contempler, c'est salutaire. Parce que nous devenons ce que nous contemplons. Ce que tu adores, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu contemples, c'est ce qui va déteindre sur toi. On a chanté cette parole merveilleuse du psaume 27. C'est David qui le dit, « Il y a une chose que je désire ardemment, alors que je suis dans une masse de problèmes, alors que les ennemis, les circonstances contraires m'environnent et m'entourent et me pressent, il y a une chose que je ne veux surtout pas faire, Seigneur, c'est finir comme mes ennemis. Alors je ne vais pas contempler mes ennemis, mais je vais te contempler toi. Et dans l'adversité, il y a une chose que je désire ardemment, le mot ardemment signifie littéralement « tendu à l'extrême, il y a une tension extrême à l'intérieur de mon âme, je soupire après Dieu, je soupire après toi, mon âme a faim, mon âme a soif de toi. » C'est impossible que je ne sois pas transformé. Et quand j'ai vu ce visage merveilleux de Jésus-Christ, David dit « je le contemple dans le sanctuaire, parce que ce que je vais contempler, c'est ce que je vais devenir. » Comment l'Esprit va-t-il encore s'y prendre pour nous transformer ? Il y a cette facette merveilleuse de la vie de prière dont on a parlé. Et puis, bien évidemment, l'Esprit va se servir aussi de la parole pour nous transformer. On va ouvrir quelques textes ensemble. Le premier, nous pouvons le prendre dans l'Épître de Jacques. Nous allons voir ensemble quelques aspects pratiques du ministère de la parole et de l'Esprit dans nos vies. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 22. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il était. Amen. La vie avec Dieu n'est pas une vie de religiosité. La parole de Dieu, la Bible, n'est pas un livre religieux. Et je me sens poussé à préciser, à expliquer de plus en plus quelle est la dimension de communion, de relation que nous devons développer avec la parole. Un jour, une chrétienne m'a dit, merci Seigneur, c'était pas ici. Un jour, une chrétienne m'a dit, mais enfin Stéphane. Elle a pris sa Bible, elle me l'a posée sur la table de la salle à manger. Elle m'a dit, mais enfin Stéphane, qu'est-ce qu'il faut que je lise là-dedans pour être tranquille ? Je crois que nous avons parfois une définition bien réductrice et bien superstitieuse de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre qui parle de Dieu. La Bible n'est pas un gris-gris protecteur. La Bible n'est pas un livre de prière. La Bible n'est pas un livre historique, même s'il y a des récits historiques au travers desquels le Seigneur me parle. La Bible, c'est non pas un livre qui parle de Dieu, la Bible, c'est Dieu qui me parle. À moi, personnellement. Et si Dieu, oui, certes, peut parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il peut vous parler par vos circonstances, par votre adversité, par vos échecs, il peut vous parler par la bouche d'un âne, il peut vous parler par la bouche du pasteur, il peut vous parler par la bouche d'un inconverti, il peut vous parler par toutes sortes de circonstances. Mais la majorité du temps, Dieu a choisi ce moyen exceptionnel, il parle par sa parole. Et Dieu veut se révéler. Frères et sœurs, la Bible que nous avons dans les mains, je ne suis pas forcément toujours sûr que nous soyons bien conscients de la valeur qu'elle a et du privilège que nous avons de l'avoir. La Bible, c'est un livre de révélation. C'est la parole qui est sortie de la bouche même de Dieu. C'est Dieu qui me parle. C'est la parole inspirée, infaillible, immuable et éternelle de Dieu pour moi. Et dans ce livre, il y a, oui, certes, il y a toutes sortes de miracles, parce que je suis confronté à toutes sortes d'impossibilités. Oui, il y a toutes sortes de réponses, parce que j'ai toutes sortes de questions. Et béni soit Dieu, la parole a toujours les bonnes réponses. 2000 ans après, c'est un livre de solutions, parce que je rencontre des problèmes. Mais la parole de Dieu est un livre de révélation. La parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Il a soif de se révéler. Il a soif, au travers de sa parole, de me faire entendre sa voix. Je dois communier avec elle. Je dois avoir ce contact et je dois entendre la voix de Dieu. Et pour ça, c'est indispensable. Il n'y a pas de mystère. Oui, c'est la vie, ce n'est pas moralisateur. Mais tout ce que j'aime me prend du temps. C'est normal, ça doit me prendre du temps. On est dans une génération, pardon, on est dans une génération texto, on est dans une génération Facebook, on est dans une génération McDo, on est dans une génération McDrive, et il faut que les choses aillent comme ça et se fassent vite, parce que quand j'ai un petit creux, et ben à la limite je me moque de savoir si je vais bien manger ou pas, je passe au McDrive, je ne descends même plus de ma voiture, puisque de toute façon j'appuie sur la petite sonnette, et il y a une petite voix qui me dit toujours la même chose. C'est pourquoi ? Et ben je voudrais un Big Cheese, une Big Frite, une Big Mac, un Big Coca, un Big Mac. machin, ça fera 5, ah, si cher, allez, guichet suivant. Et moi, j'y vais, je prends même pas le temps de descendre, je mange mon encas dans ma voiture et je file. Dieu, il fait pas dans le McDrive. Dieu, il fait dans la gastronomie raffinée, élégante, celle où on a sélectionné ses produits, celle où on prend du temps et celle où on se pose. Et Dieu n'est pas un Dieu McDrive, pardonnez-moi le trait d'humour, Dieu n'est pas un Dieu McDrive, Dieu est un Dieu qui se plaît à nous parler et qui aime me voir être là, prendre du temps pour chercher sa face et pour chercher sa voix. Et j'ai besoin d'avoir ce genre de relation avec la parole de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, je vous savais que je ne l'ai jamais fait, je ne vous ai jamais demandé, je l'ai dit la semaine dernière, je ne vous ai jamais demandé si vous avez prié cette semaine. Dans une certaine mesure, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais savoir si la prière que vous avez pratiquée vous a fait goûter à une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Cette prière-là, elle m'intéresse. Je ne vous demanderai jamais si vous avez lu votre Bible cette semaine. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que dans la Bible, vous avez entendu Dieu vous parler, à vous personnellement, précisément. C'est une autre dimension de vie. Si je n'ai pas entendu Dieu me parler, il faut que je me pose les vraies questions. Cette parole, elle va avoir un rôle. Je suis désolé, il y a plusieurs approches, plusieurs images, plusieurs métaphores qui me permettent de comprendre ma relation avec la parole. Jacques, ici, me dit, la parole, c'est un miroir. La parole, elle va te dire qui tu es. Elle va te dire à quoi tu en es. Eh oui. Et je dois m'approcher courageusement du miroir. Si j'ai une certaine distance avec le miroir, je suis tellement bien. C'est les autres qui ne comprennent rien. Vous savez, le matin, quand je me lève, en plus, moi, je suis myope, alors. Le matin, quand je me lève et que je m'approche du miroir, de la salle de bain, j'avance. Mais tant que j'en suis loin, je me dis, oh purée, le mec qui est là-bas. Ah, le beau gosse. Ah, quand même, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et au fur et à mesure que je m'approche du miroir, je m'approche, je mets mes lunettes et j'allume la lumière. Oh, où sont mes 20 ans? La parole de Dieu, elle va forcément te dire, non pas ce que tu as envie d'entendre, la parole de Dieu va te dire sur toi ce que tu as besoin d'entendre. Et si elle me révèle le cœur de Dieu, elle me révèle aussi mon propre cœur. Elle me révèle mon propre état. Elle me dit qui je suis. C'est pour ça qu'on a des combats à aller ouvrir la Bible, qu'on a toujours plein de choses à faire, mais quand il s'agit de se mettre dans la parole de Dieu, on a des combats. Parce qu'on sait inconsciemment qu'elle va nous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais des choses salutaires. Et une fois que je me suis vu dans cette glace et que j'ai réalisé que j'ai plus 20 ans, que je suis pas beau, que j'ai plus de cheveux, que j'ai des lunettes, que je vieillis, que mes pas de doigts, elles arrivent et que je tombe, eh ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je me prépare et je m'en vais pas en disant, ouais, de toute façon, je suis moche, oh, ben, c'est pas grave. On fait tout ce qu'on peut pour, voilà. Si tu t'approches de la parole et que tu n'as pas sondé cette parole, si tu n'es pas descendu en profondeur pour avoir la révélation du cœur de Dieu, mais aussi la révélation de ce que toi tu es, l'Esprit de Dieu me dit qui je suis. Et il me dit à quoi j'en suis. Et la Bible n'est pas là pour satisfaire ma conscience religieuse, elle est là pour me dire qui je suis. Cette parole est un miroir. Jérémie, j'aime beaucoup cette image, Jérémie va décrire la parole comme un feu et comme un marteau. Jérémie 23, 29, pour ceux qui notent, vous chercherez, Jérémie 23, 29, « Ma parole n'est-elle pas un feu? Ma parole n'est-elle pas un marteau? Si c'est un miroir pour me révéler qui je suis, la parole est un feu, parce que ce feu, si je le laisse brûler en moi, est là pour consumer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le feu consume, on l'a chanté, le feu purifie. Et la parole de Dieu est aussi un marteau. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette parole ? Elle vient contester avec moi. Elle est le marteau entre les mains de l'esprit qui vient taper, essayer de briser mon cœur pierreux. Elle vient briser le roc de mes pensées. Elle vient briser le roc de mes raisonnements. Elle vient briser le roc de mes excuses. Elle vient briser le roc de mon caractère. Elle vient, elle lutte, elle vient briser le roc de ma mentalité. Et la parole, elle me révèle Dieu, elle me révèle qui je suis, mais elle est aussi un feu pour venir consumer ce qui n'est pas à sa gloire. Elle est aussi un marteau pour briser les aspects de mon cœur pierreux. Cette parole, oui, elle me console. Oui, elle me montre des choses extraordinaires. Oui, elle me parle de solutions, de réponses, de ressources, de richesses, de miracles. Oui, elle me parle des plus belles choses, des plus beaux exploits de Dieu, de la grandeur de son amour pour moi. Et il y a toute une facette de la Bible qu'on retient très facilement. Mais je suis aussi confronté dans la parole à la réalité de mon propre cœur. Et c'est une dimension aussi, c'est une approche. Quand je suis là, je dois la lire dans un esprit de prière. Je suis conscient que j'ai devant moi la parole infaillible et éternelle de Dieu. Et dans un esprit de prière, dans un profond respect, je veux dire, Seigneur, Esprit Saint, révèle-moi Jésus. Imprime-le en moi, dans mon caractère. Révèle-le-moi, fais-le-moi connaître. Seigneur, explique-moi. Seigneur, fais-moi connaître. Comme tu as gravé tes lois dans les tables de pierre à l'époque de Moïse sur le mont Sinaï, comme le doigt de Dieu, le Saint-Esprit, avait gravé ces principes de vie et de victoire, de bonheur, d'épanouissement dans la pierre. Seigneur, maintenant, viens graver ta parole, viens la graver dans mon cœur, selon ta promesse. Parce que le but de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement de nous raconter des histoires ou de nous expliquer Dieu, c'est vraiment de nous amener à une transformation intérieure. Je suis amené à penser comme Dieu pense. Est-ce que les mois, les années de lecture biblique et d'enseignement ici, ailleurs, chez vous, peu importe, est-ce que vous pensez aujourd'hui plus comme Dieu pense ? Le but de la Bible, c'est de m'amener à penser comme Dieu pense. Paul dit, nous renversons les forteresses de raisonnement et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Est-ce que je pense comme Dieu pense ? Le but de la parole de Dieu, c'est de m'amener à aimer comme Dieu aime. Le but de la parole de Dieu, c'est de m'amener à raisonner. Jacques dit, vous vous trompez par de faux raisonnements. Oui, vous avez regardé, oui, vous avez plongé vos regards, oui, vous avez lu, mais vous n'avez pas laissé la parole, vous n'avez pas laissé la pensée du Christ entrer dans votre pensée pour vous façonner, pour vous modeler. Vous êtes chrétien, mais vous pensez comme vous pensiez avant. Vous réagissez comme vous réagissez avant. Vous vous disputez pour un oui, pour un non, comme vous vous disputiez avant. Il y a tellement de choses qui ne changent pas, et le but de la parole, c'est de m'amener à raisonner comme Dieu raisonne. Le but de la parole, c'est de m'amener à voir comme Dieu voit. Sans une dimension profonde de communion avec la parole, tu ne verras jamais ton conjoint comme Dieu le voit. Tu ne verras jamais les gens, les frères, les sœurs dans l'église que tu tolères, que tu supportes, mais sans plus. Supporter, ce n'est pas spirituel, c'est charnel. Aimer, c'est spirituel. Les gens que tu supportes à peine, tant que tu n'auras pas laissé l'esprit rentrer avec la parole et façonner, sculpter ton mode de raisonnement, tu ne verras pas les autres comme Dieu les voit. Je dois, par cette parole, être amené à réagir. Plus la parole me transforme, plus mes réactions face aux situations sont transformées. Et je réagis en fonction de la parole. Pas en fonction de « Ah ben de toute façon, c'est mon caractère, j'ai toujours fait comme ça. » Ben oui, c'est ce qu'on essaie de te dire, on t'aime, mais il faudrait que ça change depuis le temps. Tu as toujours fait comme ça. On a compris que tu as toujours fait comme ça. Ne te trompe pas par de faux raisonnements. Le but, c'est que mes réactions changent. Que mes sentiments changent. mes actions changent, ma façon de parler change. Je parle différemment, j'ai une autre façon de parler, etc., etc. Je ne suis plus le même, je suis transformé, parce que je suis allé au fond des choses, je suis allé au fond de la parole, et j'ai laissé la parole aller au fond de moi. Si vous ouvrez la Bible, frères et sœurs, ou quand vous l'ouvrez, je vous en supplie, allez au fond du livre, et laissez le livre aller au fond de vous. On a le chic, vous savez, pour se promener sur la parole. On se balade dans la parole, on surfe. Dieu n'est pas un surfeur, Dieu est un plongeur. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir lu 10 chapitres hier. Hein. Parce que de toute façon, quand vous êtes au chapitre 3, vous savez déjà même plus ce qu'il y avait dans le chapitre 1. Vous ne pouvez pas se raconter de salade. Hein. Bon, hein, voilà. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de surfer sur la Bible. Ce qui m'intéresse, c'est d'être profond avec la Bible. Et que moi, je puisse aller en profondeur dans le livre. Et c'est là qu'on est de nouveau sur ce grand verbe, savoir s'arrêter. Le but, ce n'est pas que j'ai lu les 4 évangiles cette semaine. Le but, c'est que lorsque je vois la grâce de Jésus se déployer envers cette femme samaritaine, si quand tu lis ce récit, tu n'as pas plus de compassion pour les autres, si tu n'as pas plus de miséricorde pour les autres, sans tolérer le péché, sans être d'accord avec le péché. On déteste le péché, mais on est passionné par le pécheur, on veut qu'il vive. Et quand j'ai lu le récit de la femme qui était là, que les pharisiens voulaient lapider, quand j'ai lu ce récit et que j'ai vu le regard de grâce, de compassion de Jésus, j'ai vu ma propre vie qui méritait l'enfer et j'ai vu Dieu me dire « Je te fais grâce, va et ne pêche plus ». Mais si j'ai goûté ça, pas dans ma tête, pas dans une prédication, si je l'ai goûté au fond de mon cœur, je ne peux pas être le même avec mes enfants. Je ne peux pas être le même avec ma femme. Je ne peux pas être le même avec l'Église. Je ne peux pas être le même avec mes frères dans le ministère. Je ne peux pas être le même. Ce n'est pas possible. Parce que cette révélation, quand j'ai vu le regard d'amour de Jésus pour cette femme qui était sur le point d'être lapidée, quelle grâce! Et 4 versets ont changé ma conception et ma mentalité dans l'Église. 4 versets ont changé ma conception et ma relation avec le monde pécheur. La Bible, frères et sœurs, est un livre de révélation. La connaissance va dans ma tête, la révélation pénètre mon cœur et elle le transforme. Et j'ai besoin de développer ce genre de relation avec la parole. Jésus dit aussi en Jean 17, dans sa prière sacerdotale, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu a pour but de me sanctifier, de m'amener toujours plus vers la ressemblance du Seigneur. Elle me modèle, elle me façonne. Si ce que j'appelle lecture biblique ne m'a pas changé, comme pour la prière, je dois me poser des vraies questions. Parfois, des chrétiens disent « Pourtant, je lis, je comprends rien. » Ça arrive. D'autres disent parfois « Pourtant, je lis, j'ai essayé. J'ai rien entendu de particulier. » Il y a plusieurs choses à considérer, frères et sœurs. C'est peut-être, comme je vous l'ai dit, soit un problème d'attitude de cœur, parce que nous avons pris la Bible comme on avait pris le McDrive, et il faut bien sûr que le Seigneur soit disposé au moment où moi je décide. Au moment où moi je veux qu'il parle, il faut qu'il me parle. Il faut qu'il me parle tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a toute une histoire d'attitude de cœur. Il y a aussi l'esprit de prière, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, j'espère que ce ne sera pas vécu de façon moralisatrice et ce ne sera pas vécu de façon « il faut pas », ce n'est pas de la morale. Mais j'aimerais vous parler quand même de la mauvaise nourriture spirituelle. Dieu est un Dieu de relations. Nous ne pouvons pas être efficacement connectés à Dieu et capter la fréquence divine, entendre sa voix, capter la fréquence divine, si nous n'avons pas fait taire d'autres fréquences qui, même si on n'a rien vu, restent quand même des fréquences spirituelles parasitantes. Ça s'appelle des fréquences spirituelles qui nous parasitent, et ça s'appelle aussi de la malbouffe, pardon pour l'expression, de la mauvaise nourriture spirituelle. J'ai rien contre les réseaux sociaux. Je ne fais pas de la morale. Vous ne m'entendrez jamais dire « pas de télé, pas de Facebook, pas de réseaux sociaux, pas de ceci, pas de Netflix, pas de machin ». Vous savez que ce n'est pas mon genre. Il faut quand même rentrer dans une logique, dans une dynamique spirituelle. Il y a des moments, ma femme me fait un super bon petit plat. Elle a pris du temps pour le préparer. Elle a mis des bons ingrédients. Elle a sélectionné les ingrédients. Elle l'a préparé. Elle l'a mis au four. Elle a pris le temps et elle me l'a apporté. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je suis déjà complètement plein. Parce que juste avant, je me suis jeté sur un paquet de chips. Je me suis jeté sur des cochonneries. Je me suis jeté sur des sucreries faciles. Et pour pouvoir apprécier la qualité d'un plat, pour pouvoir être nourri, parce que des chrétiens disent « parfois je ne me sens pas nourri par la Bible ». Je suis désolé, se nourrir, ce n'est pas seulement manger des bonnes choses. L'équilibre de la nourriture, c'est aussi d'arrêter d'en manger des mauvaises à outrance. Et dans cette mauvaise nourriture que nous consommons à outrance, pardon, je ne suis pas moralisateur, mais il faut mettre la télévision, il faut mettre Netflix, il faut mettre Instagram, il faut mettre Snapchat, il faut mettre Facebook, il faut mettre tout ça, tout ça, tout ça. On est, pardon frères et sœurs, on est tellement, tellement à longueur de semaine connectés sans s'en rendre compte avec tout et tout le monde, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Devant cet outil, pardon, de lobotomisation des masses, tellement mal nourris, à longueur de semaine. Oh, tu te rends compte ? L'autre sur mon Facebook, il a dit ça. Ah ouais ? Ah ben moi, ça, je suis pas prêt de l'oublier. Ben, t'aurais mieux fait de pas oublier la dimension de la grâce de Dieu plutôt que de te nourrir de ce que... Ah, tu te rends compte ? Et puis l'autre, il a dit ça. Ah ouais, et moi, j'ai vu ça. Ah, t'as vu ma nouvelle photo de profil ? Ah oui, c'est vrai qu'avec le profil gauche, t'es complètement mieux qu'avec le droit. C'est magnifique, quoi. Et puis, bam, femme, 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 like, fum, pas like, fum, like, fum, pas like, fum, j'aime, fum, j'aime pas. Mais, pardon, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer que t'aimes mes nouvelles chaussures ou pas ? Ça m'est égal complètement. Qu'est-ce que j'en ai à faire que la photo du chat de la voisine ait eu 359 likes en deux jours ? Je m'en moque. Alors, vous voyez, je ne veux pas faire le procès de ces choses-là. Il faut être équilibré, parce que le péché était dans le cœur de l'homme, et le péché existait avant Facebook. La misère humaine qu'on étale sur les réseaux sociaux fièrement, alors qu'on devrait en avoir honte, cette misère-là, le cœur de l'homme et le péché existaient avant la télévision. Ça existait avant Netflix. Le péché a existé largement. Le péché n'a pas attendu les réseaux sociaux pour se manifester, pour nous gangréner, pour nous bouffer. C'est pour ça que je ne veux pas amener ça de façon légaliste. Mais, je suis désolé, à force de manger des sucreries, des bonbons, des trucs qui ne nourrissent pas, je suis plein. J'ai plus faim, parce qu'avant de manger, avant de se nourrir, il faut peut-être déjà avoir viré un petit peu la mauvaise alimentation, vous comprenez ? Puis avoir un petit peu le ventre vide, pour qu'on puisse y mettre quelque chose. Et des fois, le Seigneur, il voudrait me nourrir, mais je suis tellement rempli. Je suis tellement rempli d'Insta, de Facebook, de Snapchat, de TV. Je me suis fait bouffer des heures et des heures sur Netflix. Et après, quand je suis là, je dis... Quoi ? Qu'est-ce que tu essayes de dire, Seigneur ? Je ne comprends pas. Ah, oh là là, moi je lis la Bible, hein, je ne comprends rien. Oui, mais il ne suffit pas de chercher à se nourrir. Pardon, il faut aussi enlever la malbouffe. Il faut enlever la mauvaise alimentation spirituelle. Il faut rentrer dans une logique spirituelle. Paul prend souvent l'image de l'athlète pour imaginer notre marche et voire même notre course chrétienne. Un athlète, frères et sœurs, il gère son alimentation, il la gère de façon équilibrée. Ce n'est pas seulement manger des bonnes choses de temps en temps, c'est aussi manger des bonnes choses régulièrement, des bons apports, mais surtout éliminer tout ce qui va être cacahuètes, alcool, sucre facile, bonbons, glaces, chips, etc. Est-ce que je me fais comprendre ? Si on veut que le Seigneur nous nourrisse, nous avons besoin aussi, pas seulement de manger sa nourriture, mais d'enlever les autres nourritures qui nous gavent. Si nous voulons que la fréquence divine soit bien réalignée, si nous voulons entendre la voix de Dieu dans cette fréquence divine que l'Esprit fait passer dans nos cœurs, nous avons besoin de faire taire les autres fréquences et d'enlever tous les parasites. Et c'est pour ça qu'il faut, frères et sœurs, rentrer dans une logique spirituelle, pas dans un esprit de loi, pas dans un esprit légaliste. Il faut pas, fais pas ci, fais pas ça. Est-ce qu'un chrétien il a le droit de ci? Est-ce qu'un chrétien il a le droit de ça? Paul dit tout est permis. Voilà, vous voulez une réponse? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par rien. Alors si je me plains que je ne comprends pas la Bible, que j'entends pas la voix de Dieu qui me parle pour me changer, pour me transformer, peut-être est-ce que je dois simplement considérer que oui, ah, j'ai peut-être rien fait de mal. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, j'ai rien fait de constructif. J'ai pas pris soin de mon âme. J'ai pas pris soin de ma vie spirituelle. J'ai pas pris soin de mon esprit. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ben, probablement non. Mais vous savez, il y a tellement de choses qui sont censées nous détendre, puis qui au final nous accaparent. La mauvaise alimentation spirituelle, sur la malbouffe spirituelle. L'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Romains 12, je vous exhorte, à cause des compassions de Dieu, à vous offrir vous-même tout entier à Dieu. C'est ça le culte qu'il attend de vous, vous offrir tout entier à Dieu, afin que vous soyez ce sacrifice saint, mis à part pour lui, afin que vous soyez transformés, littéralement métamorphosés, afin que vous soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. La mauvaise nourriture spirituelle, je la mets de côté. Les fréquences envahissantes et polluantes qui parasitent et qui interfèrent avec la parole de Dieu, avec la fréquence divine, je les évince aussi. La Bible, avec la prière, c'est l'instrument entre les mains du Saint-Esprit pour me changer, pour m'amener à cette transformation, parce qu'elle est la voix de Dieu, la voix qui va me dire ce que j'ai besoin d'entendre. La Bible est aussi le miroir qui va me révéler, pas seulement qui est Dieu, la Bible va me dire aussi qui je suis. La Bible est aussi un feu qui vient pour consumer tout ce qui est impur. Une fois que ça a été révélé, le feu de la parole veut consumer en moi ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. La parole est aussi un marteau parce qu'elle va lutter, elle va briser mes raisonnements, elle va lutter contre mes raisonnements, mes excuses. Elle va essayer de briser mon moi et mon ego et mes faux raisonnements. La parole de Dieu est là pour me changer au plus profond de moi-même. Changer mon cœur, changer mes pensées, changer mes raisonnements, changer ma façon de voir, changer ma façon d'aimer, changer ma façon de réagir, etc., etc. Le but de l'esprit, quand il utilise la prière et la parole, c'est de m'amener de gloire en gloire, c'est-à-dire d'un niveau de progrès à un autre niveau de progrès, de m'emmener d'un degré de ressemblance à un autre degré de ressemblance et de m'amener toujours plus et toujours plus et toujours plus à la ressemblance de Jésus. Amen. On se recueille ensemble, on prie s'il vous plaît.